Bon jouir, c'est Agathe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Bon Jouir. C'est parti, nous voici ensemble pour les dernières minutes de votre dimanche soir. Alors peut-être est-il temps pour vous de justement prendre du temps pour vous, et peut-être est-il temps pour vous aussi de vous plonger dans votre rapport à votre intimité, à cette petite chose, petite je ne dénigre pas bien sûr, qui peut-être pendouille entre vos jambes, ou peut-être qui est à l'intérieur de votre corps entre vos jambes, à voir, bref, peu importe votre situation, en tout cas, il est temps maintenant de se parler sexualité et cul. Voilà, parlons, disons les choses franchement. On y consacre finalement assez peu de temps, peut-être, pour la moyenne d'entre nous. Et Bon Jouir essaye de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors j'espère que vous êtes prêtes et prêts. Merci à Yannick et l'équipe de Metal Injection pour ces transmissions de micro. On prend le relais, vous pouvez aller faire reposer les guitares, les batteries et les organes vocaux très puissants que vous avez partagés pendant une heure et demie avec nous. Il est temps maintenant de se mettre tous et toutes à poil sur Canal B. Bon Jouir, émission 157, c'est parti.
Bon Jouir
sur Canal B. Alors juste avant de commencer notre émission, je vais refaire passer un petit message important. J'en avais parlé la semaine dernière à la toute fin de l'émission. Cette semaine, je démarre par ça. Cette année, Canal B fête ses 40 ans. Alors pour marquer le coup, on recueille vos souvenirs de Canal B sous la forme de messages vocaux. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit d'ajouter le 07 60 24 95 77 dans vos contacts WhatsApp. Enregistrez-vous en gardant votre pouce sur le micro, évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous? Votre nom, votre lieu de vie, votre âge, peut-être savoir si vous avez l'âge de Canal B, si vous êtes plus jeune, plus vieux, on ne sait pas. Et puis, nous raconter votre souvenir marquant avec la radio, un groupe peut-être que vous avez découvert sur Canal B, la participation à une émission, un moment de radio qui vous a semblé inoubliable, une rencontre déterminante, votre premier coït sur Canal B en écoutant la radio, pourquoi pas. Bref, n'hésitez pas à donner dans tous les détails et vous savez que dans Bon Jouir, les détails pour nous, c'est vraiment ce qui compte le plus. Et puis, les messages vocaux, c'est magique, puisque vous pouvez évidemment enregistrer votre voix, mais en sus, toutes les ambiances autour de vous, de la musique peut-être que vous écoutez, qui ferait écho au message que vous laissez, un concert que vous êtes en train de capter dans un bar, le son de votre cafetière, le son de votre conjoint ou conjointe en train de finir sa séance d'onanisme préférée. Bref, on vous invite à être vraiment créatif et de notre côté, il n'y aura pas de censure, ou presque. Alors ces messages donc seront ensuite diffusés lors d'un événement encore tenu secret, suspense, pour fêter donc les 40 ans de Canal B. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez aussi envoyer un message enregistré grâce au dictaphone de votre téléphone à l'adresse mail suivante lucie@canalb.fr. Moi j'ai très hâte d'écouter ce que vous allez envoyer et j'ai très hâte aussi de me dire que peut-être votre intimité, votre sexualité est intimement liée à Canal B. Voilà, pourquoi pas, ce serait assez chouette en même temps de se dire que cette radio que peut-être vous avez découverte quand vous étiez ado il y a quelques années de cela, elle vous a permis de vous libérer, elle vous a fait découvrir des groupes qui vous ont donné envie de cul, bref, je trouverais ça assez joli que l'on puisse grandir ensemble et partager nos intimités. Car Canal B, c'est la curiosité, mais c'est aussi le partage. Et Bon Jouir, c'est deux fois plus le partage et la curiosité. Bon, j'étais obligée de la faire, celle-là. Alors, après cette introduction, j'avais envie justement que nous parlions masturbation. Allez hop, voilà, c'est comme ça. Voilà le programme d'aujourd'hui. Je suis encore seule pour animer cette émission cette semaine. Alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu moi, la cheftaine, et j'ai bien envie de parler de masturbation. C'est comme ça. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, la masturbation était une sodomie? Ainsi étaient appelées toutes les pratiques sexuelles qui ne conduisaient pas à la reproduction. Saviez-vous aussi qu'au XVIIe siècle, toujours, la masturbation était considérée comme une maladie mortelle? L'onanisme n'est pas une masturbation, mais un coït interrompu. Qui est l'inventeur du mot masturbation dans la langue française? Le savez-vous? Alors c'est un petit peu comme le jeu des 1000 euros, mais sans les 1000 balles à gagner. Eh bien, c'est Michel de Montaigne. Et l'inventeur du mot masturbateur, qui aura été inventé 2 siècles plus tard, savez-vous qui est-ce? Le marquis de Sade, bravo à madame à gauche. Comme si pendant 200 ans, il n'avait pas existé de pratiquant de la masturbation. Voltaire et Rousseau, ses grands camarades, n'est-ce pas, furent aussi les grands amis de Tissot, l'homme par qui le scandale arriva, par qui la masturbation fut condamnée. Car oui, elle le fut. Et les premiers chrétiens, saviez-vous, condamnèrent la fellation pour cannibalisme. Bon, eh bien voilà, ça plante un petit peu le décor. Voici une partie historique du rapport à la masturbation. Puisque nous allons recevoir cette semaine dans Bonjouir, et c'est avec une joie immense vraiment que je le retrouve et que j'ai eu à mener cet entretien avec lui, nous allons donc recevoir Philippe Breneau, qui est donc l'auteur d'un ouvrage publié aux éditions La Musardine qui s'intitule « Éloge de la masturbation pour une sexualité libre ». Philippe Breneau est psychiatre et anthropologue, directeur d'enseignement en sexologie à l'Université Paris-Cité et auteur de nombreux ouvrages, dont notamment celui de l'incroyable Histoire du sexe en bande dessinée qui était paru aux Arènes BD et pour lequel nous l'avions déjà reçu dans le cadre de l'émission. Le voici maintenant de retour avec un plaidoyer pour une sexualité libre et autonome. Dans l'inconscient collectif, de nombreux préjugés cantonnent la masturbation à un acte tabou et inutile, voire un acte sur lequel on peut se moquer, effectivement, n'est-ce pas, hein ? Je pense que tu entendrais moins bien, tu serais moins sourd si tu arrêtais de te masturber. Bref, ce genre de détail un peu débile. Le docteur Philippe Breneau retrace dans cet ouvrage l'histoire de cette pratique solitaire, dont l'interdiction qui sévit en Europe pendant plus de 2 siècles, de 1710 à 1950, c'est pas si vieux, oui, permet de comprendre la très forte inhibition qui existe toujours envers elle. Car si la masturbation masculine semble aujourd'hui mieux acceptée, un combat reste à mener, celui de la jouissance féminine, permettant aux femmes de connaître leur corps et d'assumer leurs désirs sans avoir recours à l'incontournable phallus. Voilà, c'est l'un des objectifs de Philippe Breneau à travers cet éloge, affirmer qu'il est fondamental de découvrir la sexualité par soi-même pour la vivre ensuite avec un ou une partenaire et libérer les consciences du poids de la culpabilité. Où en êtes-vous, vous, auditorices, auditoreuses, auditoiresses de Bonjouir, par rapport à la culpabilité éventuelle lorsque vous avez l'envie, le désir, et que vous satisfaisez ou pas d'ailleurs, de vous masturber? Voilà une question à laquelle j'aimerais bien que vous me répondiez. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, peut-être privés pour le coup, sur les réseaux sociaux ou sur bonjouir.radio@gmail.com. Justement, pour vous aider peut-être à vous situer, quelques chiffres encore avant de démarrer notre entretien avec Philippe Breneau. Pour 51% des Français, la masturbation fait partie des jeux sexuels communs. Voilà, je vous pose un petit peu des statistiques, comme ça dans votre tête, vous allez pouvoir réfléchir, vous dire, ah bah tiens, est-ce que je suis dans les 51 ou plutôt non dans les 49? Bref, voilà, ça vous permet un petit temps d'introspection. Toujours nécessaire quand il est question de notre rapport à notre intimité. Il faut aussi parfois prendre ce temps-là. Pour 29% des Français ou des Françaises, la masturbation est un plaisir à pratiquer seul. Pour 6% des Français, se masturber revient à tromper son ou sa partenaire. 91% des hommes et 60% des femmes en France disent avoir connu cette pratique au cours de leur vie. Plus précisément, s'être masturbé au moins une fois dans leur vie, ce qui signifie, si le compte est bon, que 40% des femmes n'ont jamais touché leur sexe. Enfin, seuls 31% des femmes qui se masturbent, environ 20% de la population féminine, disent utiliser un sextoy. Ces chiffres sont issus d'un sondage Ipsos Digital qui avait été réalisé pour Durex en janvier dernier. Alors, où vous situez-vous par rapport à toutes ces tendances?
Bonjour.
Sur Canal B. Eh bien, bonsoir Philippe Bruneau, merci d'être dans Bon Jouir avec nous ce soir.
Et merci à vous de m'avoir invité.
Alors, je vous ai invité parce que la Musardine vient de faire paraître Éloge de la masturbation pour une sexualité libre. Mais ce n'est pas la première fois que vous publiez cet ouvrage.
Oui, en 1997, c'est-à-dire exactement il y a 25 ans, je publie L'éloge de la masturbation. À l'époque, ce livre m'avait été demandé par un éditeur, mais surtout en tant que sexologue. Et avec l'évolution de la sexualité qui n'était pas très facile, on sortait de l'épidémie du sida, il y avait des modifications des comportements, c'était pas très simple, il n'y avait pas encore la vague du porno dont on parle aujourd'hui. Eh bien, je délivrais un message que connaissent tous les sexologues, que les grands sexologues Master et Johnson ont montré en 1968, mais personne ne le sait ou les autres l'ont oublié. La masturbation est l'élément central de la sexualité. Elle permet la construction de la sexualité, la maturation, et progressivement, c'est quelque chose qui entretient la sexualité toute la vie pour l'individu, et on va le voir pour le couple aussi. Mmh. Et je fais ce message à l'époque, je vais m'expliquer après, je le fais pour les femmes, mais ça ne pouvait pas être entendu parce que en 1997, le mot masturbation n'était que masculin. Mmh. Il y a eu ensuite la réinvention du clitoris, beaucoup de choses dont on a parlé. Aujourd'hui, c'est vrai que masturbation peut être entendue autant par les femmes que par les hommes. C'est pour ça que 25 ans après, je réécris différemment cet éloge de la masturbation, parce que le message n'est pas passé et que toutes les difficultés féminines, la majorité des difficultés sexuelles féminines, c'est-à-dire de désir ou de plaisir, viennent d'une méconnaissance de soi, d'une faible connaissance de soi, et c'est vrai que la masturbation serait un outil très important, très compliqué, parce qu'on ne peut pas le donner en, j'allais dire, en consigne en éducation sexuelle aux ados, on ne peut pas faire des cours de masturbation. Par contre, il est important qu'elle puisse se développer facilement. À ce moment-là, la sexualité sera certainement fluide et épanouie, tant pour les femmes que pour les hommes.
Tout à fait. Et alors, dans cet ouvrage, c'est vraiment le cheminement, c'est l'objectif en fait de votre écriture, c'est d'arriver à faire entendre aux femmes que avoir du plaisir avec soi, ce n'est pas un problème, une honte. Et pour cela, vous expliquez aussi tout le cheminement, la place de la masturbation au fil des siècles. Comment ou pourquoi on a une relation aussi complexe avec cet acte qui, a priori, est plutôt intuitif et naturel.
Oui, c'est un acte naturel, mais j'allais même dire qui, avant l'interdit, on va en parler dans un instant, il y a eu un interdit de la masturbation, on connaît les dates exactes, et je raconte cette histoire-là, de 1710 à 1950, à la moitié du XXe siècle. Mmh. La masturbation a été interdite, pourchassée, a été condamné, on a même persécuté des adolescents pour cela. Alors qu'avant cette date, au XVIIe siècle, la masturbation était même encouragée par les matrones qui étaient les sages-femmes de l'époque, parce qu'on pensait qu'elle favorisait la procréation, qu'elle favorisait la fécondation. Et donc, la masturbation était librement vécue, mais aujourd'hui, on sait autre chose, c'est qu'elle sert à la maturité de la sexualité, parce qu'on veut une sexualité qui puisse être jouissive, ça passe par, non pas jouir avec soi-même, on va l'expliquer, mais par la masturbation va entretenir quelque chose qui est le désir et qui va faire qu'il va être beaucoup plus facile.
Alors d'où ça vient? On va peut-être commencer par le départ, l'origine.
D'où vient la masturbation? D'abord, elle est millénaire, mais elle existe d'abord chez tous les animaux, les gens ne le savent pas. Et par exemple, lorsqu'on regarde, moi je suis anthropologue de formation, même si je suis psychiatre, je dirige les enseignements de sexologie à l'université de Paris, mais avec les grands singes par exemple, les grands singes ont une habitude de masturbation qui est quelque chose de complètement logique, c'est-à-dire dans les pratiques sexuelles, la masturbation est une parmi d'autres qui est tout à fait normale. Il se trouve que au XVIIe siècle, on va découvrir, je vais vous le résumer en très peu de lignes ou en très peu de mots, ça intéressera les auditeurs et s'ils veulent savoir plus, ils iront le voir en détail. C'est une succession de choses qui va se passer en Hollande au XVIIe siècle. En 1610, le microscope est inventé par Janssen aux Pays-Bas. Mais Janssen n'est pas un biologiste. C'est-à-dire qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait aux Pays-Bas? Des marchands, des commerçants et surtout en tissu. Et le microscope va servir à vérifier la taille des tissus et à savoir quelle est la bonne qualité. L'ovule va être découverte 40 ans plus tard, toujours en Hollande, juste à côté, parce qu'on a cette, comment dire, on a une très bonne connaissance de ces microscopes, et on va découvrir les globules rouges, on va découvrir l'ovule féminin, mais ça étonne pas grand monde, parce qu'on ne sait pas ce que c'est une espèce de grosse, de grosse cellule, mais ça bouge pas. Et la révolution vient en 1677, un autre drapier, Van Leeuwenhoek, eh bien, va d'abord, si il imagine, s'il observe pour la première fois des spermatozoïdes, qu'on appelle à l'époque des animalcules, s'il les observe, c'est tout simplement qu'il les a obtenus comment? Ben, il les a obtenus par masturbation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette goutte, et là, les savants de la fin du XVIIe siècle sont totalement stupéfaits, ils sont même très gênés. Dans une goutte, dit Hartsocker, c'est un savant allemand, dans une goutte, il y en a plus de 3 millions. Ils sont stupéfaits, mais ils se posent des vraies questions. Et quelqu'un va émettre l'hypothèse, mais et si Adam, dans ses testicules, avait contenu l'ensemble de l'humanité à venir? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, contre tous les hommes, nous contredirions toute l'humanité à venir. À ce moment-là, c'est un génocide, si on perd ce sperme, c'est même, disent certains, un suicide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce nombre va faire peur. Mais ces gens-là, à la fin du XVIIe siècle, ne persécutent pas. C'est ce que René Girard appelle les persécuteurs de deuxième génération au début du XVIIIe, 1710, à Londres, puis à Lausanne. Ça va être d'abord un courant qui est protestant. Ce sont des luthériens en Hollande, des anglicans, puis surtout des calvinistes, qui vont être très rigoristes et qui vont essayer d'interdire la masturbation. Et comme, vous savez, comme dans l'histoire des Horaces et des Curiaces, des histoires anciennes, on ne sait plus pourquoi on fait la guerre. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne parleront jamais de cette histoire des spermatozoïdes. Eh bien, on va persécuter les adolescents parce qu'à l'époque, l'adolescence est en train d'arriver, c'est-à-dire une sorte comment dire, d'autonomie. Des jeunes filles et garçons, les filles, elles n'ont pas malheureusement pas grand-chose à dire à l'époque, mais on va essayer de les persécuter, on va les casser dans leurs pulsions. Et c'est ça, cette espèce de comment dire, une sorte de complicité des médecins qui vont dire ça provoque des maladies graves, et des religieux qui vont interdire la masturbation pendant plus de 2 siècles. Ça va être même tellement condamné qu'aujourd'hui encore, regardez le nombre de gens qui pensent que c'est pas bien. Et dans toutes les religions, on le pense un petit peu. Alors que la masturbation est sûrement la pratique la plus saine, la plus normale. Chacun fait ce qu'il veut avec soi. Et on va le dire dans un instant, c'est ce qui va permettre l'épanouissement de chacun pour le vivre avec quelqu'un d'autre.
Histoire de sexe. Il est bon que les mots qui sont le moins en usage, moins écrits et mieux tus, soient les mots sus et plus généralement connus. Montaigne, Essai 3, 5. Comme on dit histoire de rire, je crois très légitimement que l'on peut dire histoire de sexe, car un crime a été commis, presque fortuitement, tout d'abord en Angleterre, puis en Suisse, dans le canton de Vaud, au XVIIIe siècle. Un crime sexuel, perpétré dans ce creuset de l'Europe sur les bords du Léman, où brillent alors un Rousseau, citoyen de Genève, et un Voltaire, à quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de Ferney. Cette histoire de sexe commence anonymement à Londres en 1710 par la publication d'un pamphlet, Onania, qui sera amplifié par la parution un demi-siècle plus tard, en 1758 à Lausanne, du très sérieux ouvrage en latin de Samuel Tissot, Testament de Morbis ex Manustu Pratione, autrement dit, essai sur les maladies produites par la masturbation. Parution presque confidentielle en appendice de l'un de ses textes les plus connus, sa dissertation sur les fièvres bilieuses. Comme beaucoup d'autres, cette publication aurait pu passer inaperçue. Elle va cependant réveiller les vieux démons de l'Inquisition, de la chasse aux sorcières, et modifier durablement les attitudes et la morale sexuelle de l'Europe entière jusqu'au début du XXe siècle. Ce livre symbole, qui sera constamment réédité jusqu'au XXe siècle, donnera le signal de la plus grande répression sexuelle que l'Europe ait connue et qui dure encore aujourd'hui à travers des poncifs éculés et des idées fausses toujours entretenues. Samuel Auguste David André Tissot, qui fera toujours précéder son nom de ses deux seules initiales S.A., Samuel André, est né à Grancy, en Pays de Vaud, le 20 mars 1728, d'une famille très pieuse. Son oncle, auquel il sera confié dès l'enfance, était pasteur. Il fait de brillantes études à Genève, puis étudie la médecine à Montpellier, la plus ancienne et la plus réputée des facultés de l'époque. Docteur en médecine en 1749, Tissot revient s'installer à Lausanne, où il est très vite connu de l'Europe entière pour son habileté thérapeutique, notamment dans le traitement de la petite vérole, la variole, qu'il soigne par des remèdes qualifiés de « rafraîchissants », à une époque où l'on ne préconisait que la sudation. Un contre-pied thérapeutique qui lui vaut alors une très grande renommée. Dans le même temps, Tissot publie de nombreux ouvrages qui ont un retentissement considérable, car pour la première fois, un médecin écrit pour le peuple et livre son savoir dans la langue vulgaire. La Société royale de Londres en fait l'un de ses membres. En 1786, le roi de Pologne lui offre le titre de premier médecin, comme l'année suivante, le roi d'Angleterre. Tissot refuse ses honneurs pour rester à Lausanne, où l'on vient le consulter de l'Europe entière. Son œuvre sera enfin suffisamment originale pour intéresser un très large public. À côté d'ouvrages spécialisés sur les fièvres, la migraine ou l'épilepsie, il publie tout d'abord une réflexion très moderne sur le tourment des écrivains, de la santé des gens de lettres, en 1769, puis l'année suivante, son essai sur les maladies des gens du monde, sorte de manuel de médecine populaire pour la bonne société. Il n'avait à l'évidence pas besoin du sexe pour exister ni pour faire sa renommée. Il était déjà célèbre par son aura médicale. Mais il n'est plus connu aujourd'hui que pour la masturbation. Si Tissot apparaît comme le grand démiurge de cette histoire de sexe, agitateur tout-puissant du mythe de la masturbation, le scénario semble en être plus complexe et Tissot n'est en réalité que l'écho amplificateur d'un choc traumatique, celui de l'Europe pré-scientifique, qui découvre les mystères de la vie avec l'invention du spermatozoïde et y réagit de façon défensive par l'interdiction du geste le plus intime, la masturbation. Le bouc émissaire a toujours eu cette vertu de renforcer la cohérence d'une société en crise. Et il s'agit ici d'un crime sexuel, transgressant le tabou suprême, celui de la préservation de la vie. La légitimité du persécuteur présente toujours la victime comme coupable du crime qu'il vient de décider. La persécution ne sera alors complète que lorsqu'elle se perpétuera de génération en génération par le bras vengeur de ceux que René Girard appelle cyniquement les persécuteurs naïfs, ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Comme dans toute affaire criminelle, la chronologie des faits est essentielle et confirme notre hypothèse d'un complot médico-religieux destiné à préserver l'humanité de l'apocalypse. Avant le crime, un siècle plus tôt, la masturbation n'est pas plus interdite par l'Église que par le corps social, qui ne dénonçait alors que les excès du libertinage. Une preuve, s'il en était besoin, de cette indifférence à l'égard de la masturbation, le célèbre « Tableau de l'amour conjugal » de Nicolas Venette, tout premier manuel de sexologie paru en 1675, qui ne mentionne pas une seule fois ce terme. Quelques années plus tôt, le journal d'Hérorard, célèbre médecin du jeune Louis XIII, décrivait librement la façon dont sa nourrice l'initiait à l'auto-érotisme. En tout et pour tout, confirme la cœur, je trouverai moins de 3 pages imprimées sur la masturbation avant le XVIIIe siècle en comparaison de l'avalanche des siècles suivants et du flot constant de livres sur le péché, l'éducation des enfants et la pédagogie. Ce péché de mollesse que l'on reprochait aux masturbateurs et masturbatrices était un terme général pour désigner les vices contre nature, le coït avec une autre espèce ou la bestialité, le coït avec le même sexe, appelé sodomie, et toutes les autres pratiques monstrueuses et bestiales. À ce titre, la masturbation était une sodomie. Mais alors, après la parution de l'ouvrage de Tissot et en 1710 de la publication à Londres de cette brochure anonyme, attribuée par Tissot à un certain docteur Beckers, eh bien en très peu de temps, l'Europe médicale adopte une position unanime. Tous les grands médecins, Borave, Hoffmann, Blancard, Lewis, Zimmermann émettent des avis concordants, ils condamnent la masturbation. Tissot peut alors publier son testament en 1758. Il est enfin traduit en français 2 ans plus tard et paraît conjointement chez le même éditeur à Lausanne avec l'Onanisme ou Discours philosophique et moral sur la luxure artificielle et sur tous les crimes relatifs du pasteur Dutoit Mambrini, influent prédicateur qui sera le gourou d'une secte très rigoriste, ouvrage qui complète manifestement le discours de Tissot. Ce duo infernal a de toute évidence prémédité son crime. J'écris sur les maladies produites par la masturbation et non point du crime de la masturbation, nous en dit Tissot. J'essaierai d'envisager le côté moral et d'en faire voir toute l'horreur, précise Mambrini. La croisade contre le sexe est engagée.
La masturbation, c'est vraiment la mère de tous les vices, de toutes les maladies assez incroyables. Vous décrivez très bien, ou vous reportez dans votre ouvrage des extraits de descriptions de malades qui, à force de s'astiquer, deviennent complètement presque morts. C'est quand même hallucinant, ça.
C'est même affreux, mais c'est pas une réalité, parce qu'on ne meurt pas de la masturbation. C'est-à-dire qu'ils en font des tableaux terrible. On a l'impression qu'on va vers la cachexie et vers la mort. Et dans la réalité, les adolescents avaient extrêmement peur. D'ailleurs, on leur dit si tu te masturbes, tu vas arriver vers des catastrophes terribles. Catastrophes peut-être de l'humanité, croyait-on, mais de l'individu, pas du tout. La masturbation n'a jamais provoqué aucune maladie. On avait même dit, mais on n'a pas la source, la masturbation rend sourd. Ça rend pas sourd, ça rend pas malade, ça ne donne rien de particulier. Il n'y a qu'une chose aujourd'hui, quand il y a une grande addiction au porno, il peut y avoir quelques-uns qui ont des compulsions à énormément de masturbation et à avoir un petit peu quelque chose qui est auto-centré et qui a du mal à se vivre avec quelqu'un d'autre. Mais bon, ça, c'est quelque chose d'actuel et ce n'est pas très fréquent non plus.
Oui, c'est presque un peu, on peut dire la même chose aussi, une forme d'addiction aux jeux vidéo.
Complètement. Et c'est pas très facile de s'en sortir. Mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que c'est extrêmement répandu. Et très souvent d'ailleurs, c'est une grande difficulté souvent à faire la rencontre avec quelqu'un d'autre parce que La difficulté n'est pas que dans la fixation sur la masturbation, c'est la difficulté relationnelle. Et souvent, d'ailleurs, quand on va aider des ados ou des adultes qui sont fixés là-dessus, on va essayer de parler plutôt de la façon d'engager les relations, d'avoir de l'empathie avec l'autre, de comprendre ce qui est vécu et ce qui est attendu par l'autre, ainsi de suite.
On va revenir un petit peu au 19e siècle, si vous êtes d'accord, Philippe Breneau. Ça m'a beaucoup fait rire les propos de Fournier, qui faisait une distinction entre les gens du Nord et les gens du Midi, qui n'avaient pas les mêmes tendances.
Mais à l'époque, vous savez, il y avait à la fois des stéréotypes, mais il y avait surtout le fait qu'on imaginait des types humains, tout un tas de choses qui se transmettaient. Et il y avait l'idée aussi, on était dans des ligues de pudeur, on n'est pas dans la liberté sexuelle qu'on a aujourd'hui, et bien que les gens du Sud ne peuvent pas freiner leurs pulsions. Et c'était tous les métèques, j'allais dire, tout un tas de gens. On se méfiait des gens du sud, pas du sud de chaque pays. Hein. C'est des qui était bien au sud des régions occidentales, tandis que les gens du nord étaient soi-disant sérieux. Il n'y a qu'à voir de quelle façon. C'était des époques qui étaient dominées, notamment par le commerce des pays luthériens, notamment, qui étaient dans le nord. Et c'est ce qui a donné, vous savez, la mode. Pourquoi toutes les. Ça, les gens, c'est très peu connu. Tous les gens, par exemple, dans les bureaux, sont en noir avec une cravate et avec des costumes sombres. C'est tout simplement que les gens sérieux et qui ne se laissaient pas aller à leurs pulsions, eh ben, ils étaient dans ce type de culture. Et ceux qui étaient plus bas, oh, ils devaient avoir la chemise détroussée et ils ne canalisaient pas leurs pulsions. En fait, ça n'existe pas, mais il y a eu énormément de mythes par rapport à la masturbation. Il y a des choses extraordinaires que je raconte, que j'ai trouvées. Alors, beaucoup de choses avec la littérature, vous le verrez. Et par exemple, la façon dont on imaginait, regardez les frères Goncourt, par exemple, qui se moquaient de George Sand en disant George Sand doit avoir un clitoris énorme parce qu'elle passe son temps à, il disait pas à se masturber, mais à se le grandir, à devenir de la taille d'un pénis humain. C'est un petit peu comme si une femme voulait aller peut-être détrôner un homme. Enfin, il faut pas exagéré. Vous voyez, on était dans une période de domination masculine, dans laquelle, effectivement, on ne s'occupait pas trop de la sexualité des femmes.
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. On parle beaucoup pendant plusieurs siècles du rapport de l'homme à sa sexualité. Dans les œuvres littéraires que vous partagez dans cet ouvrage, Philippe Bruneau, il y a beaucoup de références d'auteurs qui vont parler de leur propre masturbation plus ou moins clairement. Et très peu, où il faut attendre un certain nombre d'années pour que soit ces auteurs écrivent sur les femmes, soit les femmes elles-mêmes puissent parler de leur rapport à leur propre plaisir.
Bien sûr, ça montre de quelle façon les femmes n'existaient pas. Il y avait une invisibilité évidente. D'abord, c'était une telle pudeur que jamais une femme se serait permis de dire des choses comme ça. Elles étaient très castrées, hein, dans leur pulsion. Et par contre, bien sûr qu'il y a toujours eu de la masturbation, mais quelque chose d'autre. Et qui arrive à l'élément central de ce livre. Ce livre, c'est un message que je veux passer, que je ne suis pas arrivé à faire il y a 25 ans, mais j'espère qu'aujourd'hui il sera entendu par les femmes. C'est que si on regarde vraiment dans les faits, et aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, la très grande majorité des hommes ont une pratique masturbatoire, qui d'ailleurs pose problème souvent à des femmes qui ne savent pas ça. J'ai vu combien de fois en consultation de sexologie, il faut voir de façon urgente un couple dans lequel elle découvre que son mari la trompe. Et on essaie de comprendre comment. Alors effectivement, j'ai vu qu'il avait des images sur le net, bon, peu importe, c'est-à-dire qu'il se masturbe. Si il se masturbe, c'est bien qu'il me trompe. Il y a quelque chose de l'ordre de la tromperie. Or, 80%, 90% des hommes se touchent beaucoup, souvent, pendant longtemps et toute la vie. Et c'est une chose normale. C'est même normal de ne pas arrêter toute la vie. Alors que très souvent, c'est ce qu'a malheureusement dit la psychanalyse freudienne. Freud a dit, c'est une pratique de l'adolescence. Ensuite, c'est quelque chose qui est très domination phallique, Freud. C'est-à-dire ensuite, une vraie femme jouit sous le pénis de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut, elle abandonne si elle s'est touchée elle-même. Elle abandonne, c'est des histoires d'enfantillage. Par contre, elle ne peut jouir que par l'homme. Mais lorsqu'on connaît bien la sexualité, une femme ou un homme jouissent d'abord par eux-mêmes, ce qu'ils vont apprendre par eux-mêmes pour apprendre à le vivre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas très facile, ce que je raconte. C'est pour ça que j'essaie de le décrire de façon très longue à la fin du livre, parce qu'on ne comprend pas bien cela. Très peu de femmes ont une pratique masturbatoire. C'est pas connu parce que, avec la libération récente, et notamment en parlant beaucoup de clitoris, ça a permis de libérer. Mais beaucoup de filles jeunes ne comprennent pas. Elles font beaucoup plus l'amour que leurs parents ou grands-parents, plus facilement et plus rapidement. Pourquoi je me toucherais puisque je fais l'amour? Eh bien, c'est pas suffisant. Parce que la plupart du temps, ces jeunes filles vont venir 10 ans après, en disant j'ai beaucoup de mal, j'ai peu de désir, je ne jouis pas facilement. Mais oui, parce que la sexualité, ça s'apprend, ça s'entretient tous les jours, et la masturbation est l'élément sûrement qui permet, chez les femmes comme chez les hommes, de construire progressivement que cette région devienne excitable comme on le désire.
Oui, et ça, vous en parlez très bien aussi, suite à cette description plus précise du clitoris par Hélène, j'ai perdu son nom, Connor? Non.
Ah, Helen Connor, qui est
Ouais.
une Australienne. Alors, c'est très peu connu parce qu'il y a une Française qui n'est pas une vraie chercheuse qui a fait une représentation 3D du clitoris qui est venue l'apprendre chez Helen O'Connor, hein, qui est une très grande chercheuse. Bon, c'est très bien parce qu'on connaît cette représentation que tout le monde connaît, hein, en 3D, qui n'est pas quelque chose, alors je le dis volontiers, mais ce n'est pas nouveau du tout. On n'a pas découvert le clitoris. Au XVIe siècle, en 1553, il est dessiné exactement comme ça. Exactement le même dessin avec le clitoris et ses deux très longues racines, parce que c'est de la description anatomique. Ça a été fait donc au XVIe siècle. Ensuite, c'est peu dans les livres de médecine, parce que ce n'est pas un objet de la médecine. Il y a une demi-page, par exemple, dans les manuels d'anatomie, alors qu'il y a 3 ou 4 pages sur le pénis, ou 10 pages, parce qu'il n'y a aucune maladie du clitoris. Et que la médecine, ces manuels ont été faits il y a une cinquantaine ou une centaine d'années, c'est toujours les mêmes. Il n'y a aucune pathologie et la médecine ne s'occupe pas de désir-plaisir. Tandis que le pénis va avoir des problèmes vasculaires, il y a des cancers du pénis, il y a des tuniques, il y a des maladies dermatologiques, c'est quelque chose de différent. Je vais soutenir le discours féministe parce que j'en fais partie pour que la sexualité féminine soit libre, mais ce point-là n'est pas une découverte. Hein. Voilà.
Oui. Mais ce que, en tout cas, cette chercheuse australienne a aussi permis de comprendre, peut-être, c'est que plus on stimule alors les différentes régions du clitoris, plus en fait on peut obtenir des plaisirs ou plus on éveille, on s'entraîne en fait finalement à l'orgasme, on sera plus sensible.
Alors, c'est plusieurs choses, vous avez tout à fait raison. Il y a le côté, et puis vous êtes une femme, donc si vous parlez à la fois, ce qui est compliqué dans cette chose-là, c'est qu'on parle à la fois de son expérience propre, de ce que l'on sait de la chose, qu'on a pu dire avec des proches. Là, à la fois, il y a l'expérience propre, et on voit bien, toutes les femmes peuvent le dire, entre la première fois où elles se sont touchées une fois et la façon dont ça se passe 10 ans, 20 ans, 30 ans après, c'est totalement différent. En 1970, il y a un grand rapport sur la masturbation aux États-Unis qui va montrer que même des femmes découvrent la masturbation à l'âge de 80 ans. Et elles disent, j'ai un épanouissement, ça fait 10 ans que je connais la masturbation, j'ai 90 ans, et c'est extraordinaire, pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt. La deuxième chose, c'est l'expérience propre. Et ça s'améliore au fil de l'apprentissage personnel. La deuxième chose, c'est que c'est de la physiologie dans l'adolescence, dans l'enfance et l'adolescence. Plus il y a de cycles sexuels, c'est-à-dire de moments d'excitation qui partent du repos jusqu'à l'excitation et que ça recommence, plus la région se transforme avec des vaisseaux sanguins qui vont pousser, avec tout un tas de choses qui se transforment. Ça, c'est pas connu. C'est très solidement établi aujourd'hui. Mais c'est ça qui va permettre, qui va faire qu'ensuite la sexualité va être très différente et que quelqu'un qui ne s'est jamais touché, qui a 30 ans, qui veut commencer sa vie sexuelle, ben très souvent on n'y arrivera pas. C'est pas facile du tout. En 2011, je fais un travail sur 2500 hommes et 3400 femmes. Et dans la partie féminine, sur ces 3400 femmes, il y en a 40 qui ont des orgasmes extraordinaires. C'est-à-dire qu'elles peuvent jouir très facilement et comme elles le désirent. Bon, je ne vais pas donner de détails. Et on a cherché à voir quelle était la différence entre ces 40 femmes et les 2300 autres. 3400 autres, pardon. Eh bien, on se rend compte que l'âge de premier orgasme, il n'y avait que ça de différent, était chez elles de 8, de 9 ou 10 ans. C'est-à-dire que les orgasmes La masturbation et les organes féminins sont beaucoup plus précoces que chez les garçons. Ça peut commencer à 3 à 6 ans. Chez les garçons, ils sont autour de la puberté. Et l'âge de l'ensemble de la population, c'était autour de 12 à 14 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ces femmes-là avaient un début d'auto-érotisme, on va l'appeler comme ça. Elles s'étaient entraînées, et la région avait pris l'habitude de s'exciter, de se relâcher. Et toute leur vie sexuelle était totalement différente parce que la physiologie s'était modifiée jusqu'à devenir jouissive. Malheureusement, quand elle n'est jamais touchée, cette région peut ne pas être jouissive.
Mais oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment, puis nous, c'est vraiment le credo que je défends aussi dans mon jouir, c'est-à-dire que plus on se lance dans la sexualité et en commençant d'abord par soi-même, plus on est à l'aise, plus on a envie de sexualité, enfin, c'est vraiment un cercle vertueux finalement. On est loin de ce qu'on pouvait dire sur la masturbation il y a quelques siècles. Qui favoriserait des maladies, au contraire.
Et puis même ce qu'on disait sur la masturbation il y a 20 ou 30 ans, vous avez entendu déjà une émission sur la masturbation? Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Et sur la masturbation féminine, encore moins. Si, il y a eu des ateliers de masturbation féminine, quelque chose qui était pour essayer de déclencher. Bon, mais effectivement, c'est un tabou. C'est peut-être encore un des rares domaines tabous de la sexualité occidentale.
Oui, tout à fait. Et puis, on peut dire quand même que même si on est dans une période de libération sexuelle, on parle de deuxième révolution sexuelle et tout ça, il reste qu'il y a quand même encore, enfin, et surtout en ce moment, je trouve, des montées de répression vis-à-vis des libertés individuelles. La morale fait une sorte de retour et je sais que, par exemple, dans les villages à la campagne, il y a des instituteurs, institutrices qui se retrouvent vraiment à devoir faire face à des parents qui ne veulent pas qu'on parle du corps humain et de toutes ces choses-là. Donc on sent c'est d'autant plus important, je pense, et politique presque, de revendiquer la liberté individuelle au plaisir.
Mais oui, vous voyez, on a fait un pas formidable et il fallait le faire, mettre la possibilité de l'interruption de grossesse dans la Constitution. On aurait dû mettre la jouissance dans la Constitution, c'est-à-dire le droit à la jouissance. Bon, c'est un petit peu un joke là, mais c'est complètement vrai. Toutes les avancées vont trouver des oppositions morales. Régulièrement, là, que ce soit pour la liberté d'abord de choisir sa vie avec l'IVG, que ce soit dans la liberté de jouir, c'est insupportable pour tous ceux qui jouissent pas. C'est insupportable pour ceux qui ont fait, par exemple, vœu de fonctionner autrement et pour des raisons en général morales qui sont plus ou moins avouées et d'ailleurs qui sont plus ou moins conscientes chez eux, parce que la plupart du temps, ils vous disent, mais très, très, avec des bons arguments, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui les motive vraiment.
Alors bon, je vous invite toutes, surtout, mais tous aussi, à aller découvrir
À la
cet éloge de la
masturbation.
masturbation. Et puis à vous découvrir vous-même. Il y a cette citation, moi, que j'aime bien de Woody Allen qui dit « Ne dites pas de mal de la masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. » Je la trouve.
Aime le plus, oui, c'est ça.
Et puis dans votre livre, j'ai découvert aussi, Philippe Bruno, cette phrase de Guillaume Faber, Elle est au sexe ce que l'aspirine est à la médecine, la panacée. Bon,
Oui.
donc là, il faut arrêter de travailler et puis se consacrer des temps dans la journée pour
Non,
ça.
ce qu'il faudrait, seul conseil, c'est ne jamais s'interdire. Je sens qu'il y a quelque chose. Vous vous interdisez pas. Hein, et à ce moment-là, le désir va s'exprimer régulièrement. Si on se l'interdit, petit à petit, il va s'éteindre.
Oui, c'est ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire que peut-être on peut éprouver un moment, on pense à notre conjoint ou à un partenaire ou à je sais pas qui, l'envie de cette personne et puis on diffère et en fait on se dit on fera ça ce soir parce que ce soir c'est toujours soi-disant le moment des parents un peu ritualisé, mais en fait quand le moment arrive, ça n'arrive pas. Ouais,
Voilà.
il faut pas laisser échapper son désir, ça pourrait être ouais.
Absolument.
Bon. Bon, je vous remercie beaucoup, Philippe Brenaud, pour votre passage dans Bon Jouir, pour cette, comment je dirais ça, diatribe, c'est pas le mot, je cherche le terme, cette...
Cet échange, cette... je ne sais pas ce qu'on va dire.
Cette, enfin, c'est un moment assez
Mais
politique
vous
aussi
savez
de
ce qui s'appelle?
revendication.
Ça s'appelle une dispute. Cette dispute sur le mot masturbation, il faut savoir que pour tous les gens, que disputer et discuter ont la même origine, le terme disputare en latin. Une dispute, c'est quand on échange pour comprendre mieux et pour aller un petit peu plus loin.
Ah bah super, et ben voilà, on s'est bien disputé sur la masturbation aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Bruno.
Merci, à bon jouir aussi.
Bon jouir.
Sur Canal B. Et voilà sans doute ce qui ne va pas arranger votre culpabilité personnelle à pratiquer la masturbation. C'est peut-être cette rubrique de Bon Jouir. Oui, la librairie Foutrac, peut-être qu'effectivement pour vous c'est un moment un petit peu honteux de pratique de la masturbation et en même temps c'est tout à fait l'objectif de cette rubrique. Alors j'espère que vous vous masturbez bien en écoutant Benjamin Bechler, mais surtout j'espère que vous n'en avez pas honte car nous vous invitons au plaisir personnel, nous vous invitons à vous reconnecter avec vos fantasmes peut-être, avec eh bien, des univers sexuels que peut-être vous n'aviez jamais abordés. Alors s'il vous plaît, n'en ayez pas honte, au contraire, soyez-en fiers. Benjamin Bechler va partager avec vous une nouvelle lecture. Il s'agit d'un extrait du recueil de nouvelles « Les dames de ma vie » de Dick Sainte-Cécile, ça ne s'invente pas, aux éditions Ex Aequo dans la collection Alcôve. Oh.
Voyage sans retour. Simon quittait son ancien monde sans savoir de quoi serait fait son avenir. Et là, le casque sur les oreilles et les yeux rivés sur l'écran de son smartphone, il essayait de s'oublier dans la lecture de ce roman dont il avait tant entendu parler. Cela fonctionnait plutôt bien car il ne prêta aucune attention aux diverses annonces du speaker de la gare. Et seule cette main qui venait de se poser délicatement sur son épaule put l'arracher à l'univers musical et littéraire dans lequel il était plongé. « C'est peut-être votre train ?» Il redressa la tête et ne put s'empêcher de détailler brièvement l'auteur de cette incursion dans sa bulle, avant de le faire avec plus d'attention. C'était une femme brune qui portait à merveille la fin de sa quarantaine. Un corps certainement entretenu, mais qui ne cherchait pas à tout prix à échapper aux stigmates du temps. Surmonté d'un visage aux yeux gris, cerné de petites pattes d'oie et d'une adorable ride du lion. Il les aimait bien quand elles affirmaient ainsi leur vécu. Simon allait enlever ses écouteurs et entamer la conversation quand elle se leva et prit sa valise. Son train ne devait pas tarder à arriver. Perdu dans ses rêveries, Simon avait oublié jusqu'à l'heure qu'il était. Se pouvait-il qu'ils aient la même destination ? Elle lui lança un regard interrogateur. Il releva les yeux, d'abord sur le tableau des départs, puis sur l'horloge digitale au-dessus de lui. Bon sang, c'était bien son TGV, lui aussi, qui était sur le point d'entrer en gare, et sans elle, il l'aurait loupé. Il lança à sa sauveuse un sourire éperdu de reconnaissance, et ayant ramassé ses affaires, se dirigea vers le quai. Il fut un peu étonné de constater qu'elle lui avait emboîté le pas, secrètement ravi aussi. Avec un peu de chance, elle prendrait le même train que lui. En forçant un petit peu le destin, il se retrouverait dans la même voiture. De là à partager la même rangée de sièges, il restait tout de même un monde que son imagination n'osa pas franchir. La suite lui donna raison. Il venait de l'avoir monté dans le wagon réservé aux voyageurs les plus huppés. Dommage. Un peu déçu, il s'installa, dépliant son ordinateur sur la tablette. Il avait quelques dossiers en souffrance et comptait bien sur le Wi-Fi que proposait la SNCF pour avancer un peu là-dessus. Ce n'est qu'une heure plus tard que, tenaillé par la faim et la soif, Simon décida de faire un saut à la voiture-bar. C'est en traversant la première classe qu'ils se trouvèrent à nouveau face à face. Assise sur son siège, elle le regardait, amusée, évoluait maladroitement dans le couloir avant de lui intimer l'ordre de s'arrêter à sa hauteur. « Vous m'êtes redevable de faire partie de ce voyage, je crois. Cela ne vaudrait-il pas un verre de dédommagement ?» Simon acquiesça avec un grand sourire et ils gagnèrent le wagon 14. Elle ouvrait le passage avec grâce, il restait dans son sillage. Un bouquet floral sur fond boisé et une infime note de musc, l'heure bleue de Guerlain. Il l'aurait reconnu entre mille, un parfum pour le moins inhabituel en ces temps modernes, mais qui collait parfaitement à l'élégance de sa devancière. Il ne l'avait pas senti depuis des lustres, et cela lui rappela de tendres moments avec une amie disparue trop tôt. Cette femme était décidément hypnotisante. Ils arrivèrent au comptoir, le serveur leur demanda ce qu'ils désiraient. « 2 mignonnettes de champagne, s'il vous plaît. Je suppose que vous n'avez pas de flûte, fût-elle en plastique ? Nous saurons nous contenter de gobelets, à la guerre comme à la guerre. » Le garçon, désolé, annonça la mauvaise nouvelle. En guise de bulle, il ne lui restait plus que des bouteilles d'eau pétillante. Un souci d'approvisionnement lors de la dernière escale. « Eh bien, nous trinquerons ici à la Badoit, mais ne croyez pas vous en tirer à si bon compte. Je vous réquisitionne dès notre arrivée. Il y a à quelques stations de métro un lieu qui sera à coup sûr propice à votre gage. » Simon ne pouvait pas faire moins que de s'acquitter des consommations, mais il n'eut tout d'un coup plus faim du tout. Enfin, pas de celle qui tord l'estomac. Celle qu'il ressentait se trouvait un peu plus bas. Ils engagèrent la conversation. Elle le maintint sous un feu roulant de questions, parfois intimes, jamais indiscrètes, comme si elle désirait en savoir le plus possible sur lui. Simon se prêta au jeu avec une aisance qui le déconcerta un peu. Tout juste rougissait-il de temps en temps lorsque le propos devenait trop intime. Mais il aimait cette chaleur qui empourprait ses joues. Il n'aurait jamais pensé s'ouvrir autant à une inconnue, mais il avait très vite ressenti qu'il n'arriverait pas à lui refuser quoi que ce soit.
Petit glossaire masturbatoire. Voici un inventaire et un extrait d'un inventaire non exhaustif des dérivés, synonymes et qualificatifs de la masturbation relevés dans plus d'une centaine d'ouvrages traitant de cette odieuse perversion. Le déchaînement passionnel des adversaires de la masturbation n'avait jamais de mots assez forts pour nommer ce mal suprême et toujours le nommer autrement. La fonction de cet impressionnant et très hétéroclite catalogue était évidemment de susciter l'angoisse, la honte et la culpabilité. Alors, parmi cette liste, eh bien, il y a, par exemple, l'acte secret, l'acte vicieux, l'activité solitaire, l'affaire privée, l'affreuse énormité, agir contre nature, alternative plaisante, l'amour avec soi, l'anomalie, l'artifice génital, attentat contre la nature, l'attouchement coupable, l'attouchement digital, l'attouchement honteux, l'attouchement impur, l'attouchement répété, l'attouchement secret, l'auto-érotisme, l'auto-pollution, l'auto-satisfaction, l'auto-suffisance, le besoin naturel, le besoin primitif, ah, l'aveuglement coupable, bien sûr, le besoin sexuel, la bêtise de grosse, la branlette fortuite, la branlouette, la calamité publique, le cancer, la caresse criminelle, la clitorisation, le coït interrompu, le commerce criminel, le commerce débauché, le comportement primitif, le compromis infantile, la conduite secrète, la consomption dorsale, la corruption, la coupable épidémie, le crime contre Dieu, le crime contre l'humanité, le crime donnant, le crime secret, la criminelle passion. La débauche raffinée, la débauche sans borne, la débauche solitaire, la décadence, la défaillance funeste, la dégénérescence, le dégoût de soi, la dégoûtante turpitude, la déplorable habitude, le dérèglement des mœurs, le désir lascif, la déviance invétérée, la déviance précoce, le diabolique plaisir, le divertissement enfantin, le drame des familles, l'échappement interdit, l'égarement juvénile, l'énorme, l'énormité de la main, l'entreprise défendue, l'énurésie nocturne, l'épidémie vicieuse, l'éruption volontaire, l'ersatz génital, l'étape nécessaire, l'état malheureux, l'évacuation contre nature, l'évacuation dangereuse, l'excès honteux, l'excitation perverse, l'exécrable folie, l'exubérance sexuelle, le gâchis de semences, la génitalité incomplète, le genre de pollution, le geste sans retenue, le geste sale, la gymnastique solitaire, l'habitude, l'habitude dénaturée, l'habitude fatale, l'habitude funeste, l'habitude hideuse, l'habitude nocive, l'habitude secrète, l'habitude tyrannique, le hasard d'un frottement, la manœuvre inavouable, la manœuvre vicieuse, la manusturbation, le mauvais désir, la mauvaise manœuvre, le meurtre inique, la misère humaine, la perte séminale, la pétillomanie, le pis-aller, le plaisir de compensation, le plaisir illicite, le plaisir odieux, le surmenage néfaste, la tare solitaire, la toxicomanie, le trémoussement répétitif, les vilaines manières, le viol de la nature, la volupté criminelle, la volupté solitaire. Et encore, ce ne sont que des extraits. La liste est très longue. Et c'est ainsi que s'achève Bon Jouir pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que cet éloge de la masturbation que nous avons fait tout au long de l'émission vous aura permis de vous décomplexer avec cette pratique, ou au contraire, ou peut-être en supplément, je ne sais pas, eh bien vous aura peut-être donné envie de vous y coller à cette masturbation, de la pratiquer enfin, de poser enfin vos doigts sur votre abricot juteux ou bien sur votre jonc saillant, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que vous aurez enfin le désir de franchir le pas. En tout cas, il n'y a aucune atteinte à la morale. En vrai, la morale n'est qu'une idée philosophique du monde que l'on peut se faire suivant où l'on est né, comment l'on a été éduqué. Donc il est aussi parfois bon de prendre du recul par rapport à cette morale qui nous aura peut-être été inculquée ou que nous nous sommes construits nous-mêmes de façon un petit peu forte, histoire de se protéger, histoire de croire qu'en se donnant des guides et des rênes, eh bien on peut comme ça avancer mieux dans la vie. Je n'en suis pas toujours certaine. Il est bon parfois d'aller explorer les zones sombres, alors n'hésitez pas. Je vous laisse, je l'espère, je le souhaite de tout cœur à votre exploration personnelle. En tout cas, ici dans Bon Jouir, sachez qu'il n'y a jamais de jugement et que tout est ouvert. Nos cœurs, notre sexe et tout, quoi. Voilà, on est complètement ouvert pour vous. Allez, on se retrouve dimanche prochain à 23h pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une cyprinement belle semaine sur Canal B. Thank you.